le trop. Et c'est un mort tout en orange. Les flics tabassent. Sors le P38 et le pic du flingue de glace.
Les flics, la police c'est le vice.
Et par des keufs se font paner. C'est connu, dans le Parisien t'as des histoires comme as.
La route de guette, mec, les flics aussi. Vois du rouge, aussi rouge que vos bavures.
J'ai mal au cœur quand ta frère meurt. Pour eux, un accident de travail à t'en faire peur de sortir sans pare-brise.
Moi seul et unique.
Salut à tous, salut à toutes, vous êtes bien sur le 895, c'est Radio Audio, la radio qui va à volo. Il est midi, vous êtes en train d'écouter l'émission du numéro 0. Alors, l'émission, c'est pour une bonne hygiène buccale. Ici, on vous propose de desserrer les dents, d'ouvrir sa bouche et surtout de ne pas garder sa langue dans sa poche. Le numéro 0, à la base, c'est un média alternatif participatif de la région stéphanoise. Il a commencé par un site internet où tout le monde peut publier ses articles. L'adresse, c'est le numéro 0 tout attaché et tout sans accent, .l'autre.net. Il permet aux personnes qui font et vivent l'actualité, qui se sentent concernées par un sujet, de diffuser elles-mêmes l'info. Il y a une version papier qui sort de temps en temps de manière alternative. Et l'émission radio que vous êtes en train d'écouter, qui passe à midi le jeudi et rediffusée à 5 heures le jour même. Dans cette émission, on passe des brèves, du désordre, des infos en vrac sur Synthé et sur le monde, des scrognonieux, etc., etc. On a décidé de prendre parti et de choisir notre camp. Et vous allez pouvoir l'entendre comme d'habitude. Voilà, aujourd'hui au programme, on va passer une bonne partie de l'émission à parler du travail du sexe avec deux personnes qui sont dans les studios pour venir nous en parler. Et puis à la fin, on finira par un agenda mondial. Si on a le temps, on parlera de la fac aussi. On verra.
Alors effectivement, donc, il y a deux invités parmi nous. Et ces deux invités nous ont proposé de passer... D'abord, l'idée à la base, c'était de passer à un montage qui a déjà été diffusé sur Radio Canu dans l'émission La Déprave. Et c'est un montage d'une discussion qui avait eu lieu donc, pendant le Festi Déprave à Lyon en novembre dernier. Et donc c'était l'occasion aussi d'entamer, pourquoi pas, un débat sur le travail du sexe et d'annoncer effectivement, comme l'a été précisé, un agenda qui va s'annoncer au mois de mars avec plusieurs événements à venir. D'abord, allez-y, présentez-vous, tout ça. Vous faites partie du collectif Langue de pute, c'est ça ?
C'est ça. Donc moi c'est Kevin et il y a Marie avec moi. Donc, le collectif Langue de pute, c'est monté petit à petit à partir d'une discussion qu'on a eue pendant le cadre de la Festi Déprave. Donc, il y avait eu une discussion vraiment informelle sur le travail du sexe. Et on était à peu près une quinzaine à participer à cette discussion. Ça. Donc, vraiment en non-mixité, travailleuses et travailleurs du sexe, plus quelques personnes qui soit ont travaillé comme travailleuses ou travailleurs du sexe ou travaillent dans des assos comme Caviria à Lyon. Donc à partir de là, on a décidé de se rencontrer plus souvent pour faire un petit réseau pour s'entraider entre nous. Et c'est à peu près ça, je crois. Hein.
Ouais, moi je précise qu'on s'est rencontrés quand même parce qu'on vient aussi du même milieu féministe, libertaire, et que ça joue vraiment sur le but ou les objectifs que le collectif Langue de pute se fixe.
Et vous avez parlé de Cabiria, qui est une asso qui existe depuis longtemps. Et justement, qu'est-ce que c'est et qu'est-ce qui peut vous. En quoi vous êtes différent?
Ouais. Alors, Cabiria, justement, c'est une association. Nous, on est vraiment plutôt un collectif informel. Et Et c'est une association de santé communautaire qui s'occupe surtout de la prostitution de rue, et enfin qui travaille avec la prostitution, avec les filles qui se prostituent dans la rue plutôt. Voilà.
Ok. Et mais vous avez un point commun par contre avec Kabiria, je pense, c'est que vous n'êtes pas abolitionniste, comme on dit. Alors est-ce qu'on pourrait faire un point un peu sur qu'est-ce que c'est le positionnement abolitionniste ? Quel est votre positionnement ? Quels sont les divers positionnements en fait sur ce qu'on appelle travail du sexe ?
Ouais. Les divers positionnements, je vais peut-être pas tout faire. Mais donc, abolitionniste, c'est clairement dire que la prostitution doit se terminer et donc c'est lutter contre ça. Jusqu'à il y a pas longtemps, je croyais qu'être libertaire, ça voulait forcément dire qu'on n'était pas abolitionniste, mais j'ai appris que non. donc voilà, nous on se pose plutôt dans ce collectif-là comme évidemment non abolitionniste, puisqu'on est aussi des travailleurs travailleuses du sexe et que forcément on a besoin de notre travail. Et on n'est pas non plus réglementariste, c'est-à-dire qu'on ne veut pas législation sur le travail. Enfin, on ne va pas lutter pour la législation sur le travail du sexe, en partie parce qu'on est libertaire et que de droit et devoir, on s'en tape, on fait ce qu'on veut et on se démerde comme on peut surtout. Et aussi parce qu'on est féministe et que notre corps, on en fait ce qu'on en veut.
Ok, donc vous êtes pas. Il y a d'autres assos qui sont d'ailleurs assez intéressantes, comme Stella au Canada. Et déjà, est-ce que vous pouvez en parler vite fait de Stella ?
Stella, c'est le penchant de Kabiria, c'est à peu près le même genre, sauf qu'eux sont vraiment plus alternaux, je pourrais dire. Ils font plus. Ils ont sorti une compile qui s'appelle La putain de compile, qui a été passé d'ailleurs l'année passée à Lyon, au Boulon, au défunt Boulon. Et c'est à peu près à partir de là où en fait le sujet dans le milieu libertaire, mais en tout cas lyonnais, je pense aussi à Saint-Thé, il y avait quand même pas mal de personnes de Saint-Thé qui s'étaient pointées à cette soirée. C'est vraiment à partir de là où on a pas mal discuté de la prostitution, où c'est là où j'ai pas mal rencontré Marie, d'autres personnes. Et à partir de là, on s'était dit que ce serait cool de se rencontrer plusieurs fois. Et ça s'est pas fait parce qu'on a tous des chemins différents et on n'habite tous pas au même endroit et c'est assez difficile. Donc voilà quoi. Et vous pouvez aller dans un moteur de recherche quelconque et taper Stella. Et vous aurez, ils ont des vidéos en ligne. C'est assez intéressant.
Oui, et d'ailleurs c'est un site sur lequel il y a d'autres liens aussi. Je pense à lesputes.org, ce site.
Le collectif de Paris, le réseau de Paris.
Ouais. D'accord.
Et justement. Sur le site de Stella, j'ai vu un peu quelles étaient leurs activités. De ce que j'en ai compris, c'est principalement de l'aide et de l'entraide et du partage d'infos sur les risques divers et comment s'entraider aussi, pas uniquement du point de vue de la santé. Et puis d'un autre côté, je ne sais plus si c'était Stella ou une autre asso qui voulait lutter un peu, comme vous disiez, sur les droits... réclamer, un peu revendiquer d'avoir des droits du travail comme tous les autres travailleurs. Et vous, quels sont plutôt vos centres d'intérêt, vos activités, vos projets ?
Alors, moi, je vais juste dire un truc sur le collectif. Il y a un truc qui nous a paru important, c'est de dire qu'on ne va pas être, justement parce qu'on n'est pas abolitionniste, et qu'en fait, on n'a plus envie de ce débat-là, donc... Donc tout ce qu'on va faire comme activité ou action ponctuelle ou quoi, ça va vraiment être pour essayer d'ouvrir le débat à autre chose qu'on est pour ou on est contre la prostitution, parce que là, on s'en sort pas et c'est pas du tout intéressant.
Donc, par exemple, dans nos activités, il y a eu... c'est à peu près là nos liens avec les associations comme Kabiria. Il y a eu le salon... Héropolis à Lyon, ça a été l'une de nos actions. On avait fait un peu informellement l'année passée avec quelques personnes, pas sous collectif Langue de pute, mais quelques personnes, on y était allé. Et cette année, on y est vraiment allé avec Kabiria qui nous soutenait et qui était là. On a tracté, on avait une grande banderole. Je ne me souviens plus exactement qu'est-ce qu'elle disait, la banderole, je ne l'ai plus en tête.
Ouais. On a interpellé Magali, qui était la personne qui parrainait une travailleuse du sexe qui est actrice porno, qui parrainait le salon. Alors on l'a interpellé en disant soutiens-nous. On fait le même travail en fait, on est toutes et tous travailleuses du sexe.
Et justement, vous avez choisi de parler en termes de travail du sexe. Et on a plutôt, en général, déjà, on appelle ça plutôt prostitution. Et on a un imaginaire et des représentations qui sont très clichés et assez stigmatisants. Et est-ce que vous pouvez nous dire un peu qu'est-ce que c'est le travail du sexe ? Apparemment, c'est beaucoup plus, il y a beaucoup plus d'activités que ce qu'on peut penser, divers types de travail, etc.
Je sais que, bon, par exemple, nous, au sein du collectif, il y a à peu près la moitié des travailleuses et travailleurs du sexe qui travaillent soit par Internet, par annonce, vraiment de l'escorting. Après, il y a la domination, il y a le travail de rue. Après, il y a tout le travail de rue, mais il y a vraiment trois catégories. Il y a vraiment le travail de rue pour les femmes, travail de rue des hommes et travail de rue pour les trans. Donc c'est vraiment en plus trois milieux totalement différents, trois genres de clientèle totalement différentes. Et c'est toutes les... Puis après, genre de travail du sexe, ça peut être aussi les actrices ou acteurs porno, ceux qui font de la webcam par Internet.
Mmh. Striptease dans les bars, hôtesse.
Hôtesse.
C'est pour ça qu'on préfère utiliser le mot travail du sexe, parce qu'il y a, dans le travail du sexe, il y a des gens qui se prostituent et il y a des personnes qui font d'autres travails qui sont aussi du travail du sexe.
Et un des autres intérêts d'être en collectif, c'est aussi d'être en réseau. Mmh. Alors je sais que l'idée d'être en réseau, elle avait été justement abordée lors de cette discussion à la Festive d'Épraves. Est-ce que vous pouvez plus en parler, de l'idée d'être en réseau, de l'intérêt surtout d'être en réseau dans ce travail?
Là, comme nous, on s'est rencontrés, il y avait vraiment cette idée de se dire, il y a des moments où on a des problèmes, comme se mettre en sécurité par rapport au fait qu'on va avoir des personnes... une seule personne avec une autre personne qui a le pouvoir, souvent, qui est le client. S'entraider sur des trucs de pratique de prix ou des choses comme ça. Et c'est là qu'on trouvait que c'était intéressant d'être en réseau. Et pas d'être en réseau entre travailleurs, travailleuses du sexe, et en réseau avec les personnes qui nous soutiennent et qui nous aident au quotidien, en fait, dans la vie quotidienne, qui est de faire attention à nous quand on part travailler ou quand on revient travailler. Et voilà, c'était
ça. C'est à peu près ça l'idée, quoi.
Ok, on va bientôt écouter donc l'enregistrement de cette discussion qui a eu lieu. Est-ce que vous voulez la présenter, la contextualiser, quand c'était, pourquoi, de quoi vous avez parlé?
Donc, c'était dans le cadre de la Festive d'Épraves, le festival Transpédéguine qui a eu du 29 octobre au 5 novembre à Lyon. Et il y avait plein de discussions, plein d'ateliers et tout. Et ça faisait partie, l'une des discussions, c'était une discussion en non-mixité pour parler du travail du sexe. Donc on était à peu près une quinzaine, comme j'ai dit tout à l'heure. Et puis... D'où l'idée que, comme on fait partie, moi je fais partie aussi du collectif de la Déprave, et comme on a une émission de radio, j'avais demandé à tout le monde est-ce que je peux enregistrer la discussion. Tout le monde a dit oui, puis on a enregistré la discussion, et puis voilà quoi.
Et moi je voudrais ajouter que le fait qu'on soit en quasi non-mixité travailleurs, travailleuses du sexe ce jour-là, ça nous a vraiment permis de discuter de notre travail et de nos ressentis et politiquement comment on se positionne par rapport à notre travail. Et ça nous a évité tout ce problème d'être pour ou contre. Donc vraiment, en clair, ce débat, on parle de la base que juste on est travailleuse du sexe, point. On n'est pas ni pour ni contre.
D'accord.
On va l'écouter alors.
Là, je voulais avoir un peu les retours de chacun chacune sur ce qu'il veut en fait sur la concurrence, t'en parlais un peu tout à l'heure. Justement, même sur Internet, et les tarifs, en fait. Mmh. Parce que moi, ça fait un an du coup que je t'appuie plus, mais je me suis rendu compte en l'espace d'un an que les tarifs sont graves diminués. Et voilà, donc ça, c'est toujours aussi. Ça fait toujours le problème.
Je sais que sur un des sites où je suis sur Lyon, je suis l'un des plus chers. Parce que moi, il y en a qui proposent 60 euros de l'heure. Je suis là, c'est là.
60, ouais, c'est moi aussi, j'ai fait des prix.
50, c'est pas que vous achetez là. Non, pas de question.
C'est pas forcément des gens qui sont pas charmants en plus de ça. Non, c'est ça que. Enfin...
Moi, j'ai rarement payé plus de 50 pour le
Mais c'est vrai que moi, quand j'ai commencé. La première fois que j'ai fait, c'était à Paris il y a 3 ans. Sur un site, et je sais que les prix moyens c'était entre 200 et 350 euros de l'heure. Mmh. Bah, à Paris, je pense que c'est peut-être plus cher. Et là, du coup, je me suis refait un profil quand je suis rentré il n'y a pas très longtemps. En fait, le prix moyen c'était 150 en fait. Mmh. Et c'est vrai que c'est. Enfin bon. Et je sais pas, j'ai plus l'impression qu'il y avait plus d'escortes que ça non plus, mais. Mmh.
Alors, ça va du coup croiser directement le truc des normes. Mais moi, je prends 250 euros de l'heure, je continue de prendre 250 euros de l'heure, même si les prix ont baissé. Et en partie, je suis hyper chère par rapport aux prestations que je donne, c'est-à-dire que je protège tous les rapports, y compris la fellation. Déjà, ça t'enlève 50% de ma clientèle. Et je veux pas faire la sodomie en tout cas. Du coup. Je suis super chère parce qu'à Lyon tu prends maximum 200 euros l'heure pour ça, alors que moi à Saint-Etienne, vu que je suis vraiment on est vraiment pas nombreuses, je peux rester là-dessus. Par contre, j'ai vachement moins de clients et pendant la crise, laisse tomber, j'avais pas un coup de fil quoi. La bourse elle est remontée, les gars ils sont remontés, mais et directement par rapport au truc de normes, les filles black à Lyon, elles prennent 250, 200, grand maximum 200, mais généralement elles prennent 150. Alors que quand t'es blanche, tu peux prendre 200, 250.
Et puis
voilà, des trucs de normes, de beauté, de correspondre aux critères physiques qu'on demande.
Parce que moi je sais que quand j'ai commencé à faire ça, je le faisais 2 ans, et en fait ça m'a posé vraiment un problème, une question, j'étais là. Non, en gros, moi je me sens queer, du genre trop radical. Du coup, je suis contre les normes et tout. Et en fait, je me suis rendu compte que j'utilisais carrément, mon niveau social, culturel, tu vois, et ma prestation physique, bien que. Bon, bref. Et en fait, je jouais trop sur mon jeunisme, tu vois, le fait que ma tête et tout, alors que c'est des trucs que j'ai pas du tout envie de perpétrer, et j'utilisais, à contrario de mes idées, pour gagner de l'argent. Et du coup, c'était un peu problématique parce que d'un côté, je dis, ah non, c'est normal, il faut les faire voler en éclats. Et en même temps, je les valorise et je les perpétue pour gagner de l'argent. Et du coup, c'était un truc super compliqué, notamment si tu te considères genre un peu anticapitaliste, blabla et tout. Et du coup, tu vends ton corps, donc tu marchandises. Donc du coup, tu fais de l'argent, tout en valorisant des normes contre lesquelles tu es. Et en même temps, c'est vrai que ça donne un statut relativement marginal qui peut aussi nourrir une espèce de résistance par rapport à des trucs. Puis c'est intéressant aussi parce que peut-être, du coup, ton corps, tu en fais un outil différent de ce qu'on t'a appris à l'être. Mais c'est vrai que c'est des réflexions qui sont assez compliquées, quoi, parce que c'est dur de trouver une solution ou une réponse toute faite, quoi. Parce qu'on est toujours un peu dans une espèce de mouvement où oui c'est cool et en même temps ça pose plein de problèmes et du coup c'est bien je pense de pouvoir en parler avec des gens qui sont vraiment très politisés de manière quotidienne, parce que je pense que c'est des questions qui peuvent prendre la tête.
Mais vite fait par rapport à ça, parce que c'est là justement directement là-dessus qu'on m'a attaqué en tant que prostituée, du coup tu gagnes de l'argent avec un truc genre qui dans une société idéale ne devrait pas exister. Bon bref, ça c'est encore un autre problème à mon avis. Mais surtout, quand je suis serveuse dans un restaurant, je me plie à des pratiques contre lesquelles je me bats tout le temps, qui est le service d'une personne à une autre pour 5 euros de l'heure quoi. En plus. Et quand je suis dans un garage, je répare les voitures de personnes qui jamais mettront les mains dans la graisse, juste parce que, enfin voilà, tout le reste de ma vie, quand je travaille pas, juste je lutte contre tout ce qui se fait dans le travail salarié, que ce soit de la prostitution ou n'importe quel autre travail salarié. Et quand il faut travailler, ben, tu te plies à des trucs parce que tu vas bosser dans le monde capitaliste, et que ce soit ça ou autre chose, pour moi, en fait, c'est la même chose, sauf que le reste, c'est vachement moins bien payé.
C'est vrai que quand on fait du travail du sexe, on ne remet pas en question la notion de travail, puisqu'on travaille.
La question, je crois que le débat, c'est plus d'assumer d'être capitaliste, d'être anti-capitaliste, d'être anti-capitaliste. Et après, effectivement, par rapport à un travail particulier que tu as
lancé, etc. Non, je suis d'accord sur la notion de travail. Mais moi, si je suis serveur dans un bar, ça ne me fera pas pareil. Et quand je la pute. Enfin, moi, au niveau individuel, ça n'implique pas les mêmes choses. Même si je peux rationaliser, me dire finalement, je produis un service, finalement, le sexe, c'est un service comme un autre, et finalement, j'ai une demande à des personnes qui finalement n'y ont pas accès parce que la société est faite de telle manière que quand tu as 60 ans et que tu es un vieux et que tu es homo, et ben forcément, pour baiser, ça va être super compliqué. Du coup, c'est vrai. Mais ça n'empêche pas que moi, intellectuellement ou même émotionnellement, ça implique des choses qui sont pas forcément impliqués à travers un travail traditionnel, tu vois.
Ouais, mais peut-être individuellement, après, enfin, au niveau du questionnement qu'il y a, de se dire est-ce que c'est moins légitime de faire du travail du sexe que notre travail, ben vraiment, je crois pas. Mais en plus, du coup, toi, c'est vachement moins pire, parce que si tu fais la pute que pour des vieux de 60 ans qui peuvent plus baiser, moi, je fais la pute pour des types qui juste ont un trip porno, qui ont des femmes, des enfants, des maîtresses, qui ont tout, mais juste, à un moment, ils ont un trip et ils peuvent se le payer. Et ça, c'est même pas des gens qui sont en plus... déjà qui ont un problème forcément, tu vois, par rapport au sexe.
Non, mais
c'est un jour, je vends la femme, quoi.
Non, en fait, moi, j'ai toujours rêvé d'avoir genre des clients jeunes, tu vois, un peu lucky, tu vois, genre un peu sexy, qui avaient genre trop 300 euros à tout tourner.
C'est marrant, parce que par exemple, moi je suis passé de la situation où tu étais à en partie dans le genre de ma vie privée, donc professionnelle aussi, à l'autre. Car c'est moi qui ai vieilli, que je suis devenu moche. Et effectivement, j'ai aussi, je me suis tapé, bah, pas mal de clients qui m'adorent, bah, c'est moi. Alors on me dit, ça fait combien j'ai ? On dit, bah oui. Ces fameuses normes, bon, bah. Qu'on fait avec, ils sont là. Je veux dire, c'est... on est dans un milieu où.
Mais c'est pas forcément que ça ne joue pas toujours dans ce sens-là. Enfin, des fois, c'est plus facile aussi avec des gens qui sont. Par exemple, ça j'aime bien, moi, les clients en baisse. Oui. Parce que je sais pas, ils ont quand même une sorte de reconnaissance, ou je sais pas, peut-être encore plus difficile pour te baiser, je sais pas, et du coup. C'est plus facile. Ou alors ils sont plus généreux, je sais pas. Des fois ça joue dans
l'autre sens. Non mais en fait, je vais rebondir sur ce que disait Plume, c'est vrai que c'est hyper intéressant. Enfin, pas intéressant, mais c'est vraiment une question hyper fondamentale, c'est comment on arrive à modifier notre regard et notre perception des choses et du désir et du sexe. Parce que bon, du coup, je sais pas, moi j'ai 30 ans et c'est vrai que je suis encore dans un âge ou dans une représentation physique sur lesquelles je me sens pas encore attaqué trop par la société, quoi. Mais du coup, d'avoir fait cet acte, d'avoir été pute comme ça et d'être retrouvé confronté à des personnes qui, en fait, étaient des gens assez chouettes, généreux, enfin des gens très choux, quoi. Sauf que la manière dont la société, en fait, s'est construite, si on veut dire que le désir était construit, un truc construit et tout, ils n'avaient plus accès à quelque chose dont que leur corps continuait à leur demander. Quoi. Du coup, ça pose vraiment cette question, c'est une question qui m'est un peu difficile, mais de comment justement, petit à petit, on arrive à modifier en fait ces questions-là du corps, du rapport au corps, et de comment transformer notre regard un peu. Je ne dis pas que c'est possible, mais c'est... Parce que du coup, moi perso, je me dis, si j'ai 50 ans... Enfin, tu sais, c'est un truc dur, enfin, imaginez, mon corps, il aurait encore besoin de désir, reconnaissance de désir et tout, et de plus trouver aucune porte qui puisse s'ouvrir pour répondre à ça.
À part celle de la prostitution. À part celle de la prostitution.
Moi, j'ai les bras qui me tombent de vous entendre, enfin, les bras me tombent au sol, parce que le fait que tu poses la question de la catégorisation d'âge dans ce sens... C'est-à-dire, je fais la pute parce que je suis jeune et beau, et puis à 50 ans, je serai vieux et moche, et j'aurai mes propres, enfin, j'aurai les insatisfactions de mes clients, etc., etc. Bon, personnellement, j'aurai 50 ans dans un peu moins d'un an et demi, et c'est dans l'autre sens que je me posais la question, tu vois, c'est quelque part. Est-ce que ma valeur marchande en tant que pute va augmenter ou diminuer avec le temps? Et comment faire en sorte qu'à travers, comme absolument dans tous les jobs, le fait d'avoir de l'âge, de l'expérience, des pratiques, bon, tout ça, ce soit pas quelque chose qui conduise à la déchéance, tu vois, et tu finis, comme on dit dans le langage de l'entreprise, amorti, mais qu'au contraire, ce soit quelque chose qui soit de plus en plus valorisé. Et ça, moi, c'est un truc que je dis à tous les gens que je rencontre. Pensez votre parcours dans le temps, non pas comme une valeur de pensée, comme une longue déchéance, mais au contraire comme une construction qui est de plus en plus belle, qui est de plus en plus, qui a de plus en plus de choses à faire, de plus en plus de choses à transmettre. Et ça, c'est un truc, j'ai remarqué que ça, on y arrive dans le boulot, quel que soit les boulots, en devenant de plus en plus performant dans de plus en plus de pratiques. Moi, c'est ce qui m'a conduit à aller vers le SM.
Je suis d'accord avec toi, que je pense qu'avec le temps, on est, enfin, tu vois, on se bonifie, on apprend des choses, on a plein de choses à partager et tout. Sauf que, enfin, de ma propre expérience à travers le travail du sexe, ce qui était valorisé par les clients, enfin, ce qu'ils recherchaient, c'était un truc de chasse des gens jeunes qui incarnaient quelque chose, tu vois, une espèce d'image de représentation. Et après, je dis pas du tout que moi, je me vois pas, genre, je suis vieux, c'est horrible, c'est pas du tout ça. Sauf qu'à l'intérieur, tu vois, de la problématique du travail du sexe, j'ai l'impression que, enfin, que les clients, en tout cas que j'ai rencontrés, recherchaient des gens jeunes, et enfin c'était un des trucs principaux qu'ils recherchaient, quoi. Jeune et beau, quoi, tu vois.
Ah, ouais.
Mais ça, et juste pour finir, je pense que comme faire du travail du sexe, ça a été une espèce de choix que j'ai décidé, ça n'a pas été fait de manière, j'ai pas le choix, en fait. Du coup, c'est déjà un chemin assez spécifique, j'ai l'impression, dans le travail du sexe. Ben, je l'ai fait parce que j'avais l'impression que j'avais une espèce de potentiel marchand. Enfin, tu vois, c'est comme ça que ça s'est construit.
Mais bon, peut-être aussi que tu as cette clientèle-là parce que tu as vendu ça. Oui. Toi, tu as vendu un jeune mec de 30 ans.
J'en ai 24.
Enfin, mais c'est ce que tu as vendu, ouais. Tu as vendu un mec de 30 ans qui correspond à certains critères physiques.
Oui, mais parce que typiquement, moi j'avais l'impression quand même que sur le site sur lequel j'avais mon annonce, tout le monde vendait un peu la même chose, quoi. Enfin, c'est ça. Enfin, moi je parle des, tu vois, genre pute mec pour mec. C'est quand même le truc principal, c'est jeune, beau, Humbert, tu vois.
Et là, la notion du sens de reparler de réseau. C'est génial parce que quelque part tu es un produit et quand tu tombes sur un client qui ne cherche pas ce produit-là, bah, tu l'envoies vers quelqu'un d'autre. Ça t'es pas pour moi, mais j'ai une pote qui va pouvoir faire le coup.
Mais ma carrière, j'ai fait j'ai un peu changé d'apparence depuis la première fois que je l'ai fait jusqu'à maintenant. Et à chaque moment, c'était plus grunge que ma... Enfin, et à un moment, je bossais sans m'épiler. Du tout. Et je trouvais des clients. Je ne me sais pas payer cher. Bon, je trouvais des clients. Après, c'est chiant parce que les normes sont toujours, du coup, elles vont s'exprimer au niveau des prix que j'arrive à négocier, quoi.
Moi, sur lequel j'ai un petit peu de réflexion, c'est moi par exemple, tu vois, toi tu demandes 250 euros, moi je demande à Paris, si quand je fais, je demande 200 euros, ce qui sont des prix super élevés, ce qui représente quand même beaucoup d'argent. Si tu réfléchis par rapport au SMIC, bon, même si c'est pas le même type de prestation. Et en fait, ce que je veux dire, c'est intéressant, c'est de savoir comment on détermine cette valeur-là en fait. Et que c'est quand même un truc de. Je veux pas dire genre de blanc éduqué, entouré d'une en provenant d'une certaine communauté politique ou intellectuelle et tout, qui dit ben moi je vaux ça. Et tu vois, c'est quand même un. Où, je vais avoir du mal à expliquer ce que je veux dire, mais c'est là où tu poses quand même. C'est pas un truc de classe, mais presque un peu, tu vois. Enfin, bon, après, je vais pas revenir sur la question du déclasse, mais de se dire ben moi je suis blanc éduqué, blabla, et ben je vaux ça. Enfin, tu vois, c'est. C'est assez.
Je sais pas. Ton prix, tu te l'es fixé en fonction de ce que tu es en train de dire.
De
je vaux ça, donc je pense que je vais mettre dedans.
Non, parce que moi,
j'ai pas du tout fixé comme ça.
Non, en fait, moi, le prix que je me suis fixé, c'est pas. En fait, j'ai regardé comment les gens y faisaient, et puis je me suis dit, moi, je vaux plus parce que sur des critères peut-être débiles, tu vois, mais c'est comme ça que tu le fais. Mais. C'était, en fait, je disais plus ça pour valider le fait que si on se permet, en tant qu'escorte, de demander des prix aussi qui sont quand même. Enfin, moi, je sais pas si c'est élevé ou si c'est les autres personnes qui sont vraiment ultra mal payées, mais c'est quand même des sommes. Enfin, moi, je sais que quand je me faisais payer 250 euros pour une heure, ben, enfin, ça me paraissait une somme énorme, en fait, au final, quand je sortais du truc, ça me paraissait beaucoup. Mmh. Et de se demander qu'est-ce qui fait qu'on se permet de demander autant d'argent, en fait. C'est tout, mais. Pas dans le sens que c'est mal ou culpabilisant, quoi. C'est plus de se dire, une fois de plus, c'est quand même, disons, ici à l'intérieur d'une espèce de communauté un peu radicale, politisée et tout, c'est quand même, disons, les personnes qui correspondent le plus aux normes physiques bien, ceux qui sont blancs et ceux qui ont une espèce de culture intellectuelle et politique, qui vont en plus accéder au niveau le plus élevé de prix, par exemple. Enfin, c'est plus une remarque qu'un truc de critique ou pas, c'est que finalement on est aussi dans une espèce de reproduction de schéma de parce que voilà, moi je suis blanc éduqué, et ben je vais pouvoir me permettre et assumer de demander un prix aussi élevé en tant que pute. Comme toi, enfin tu vois, toi aussi tu vas fonctionner comme ça.
Ça c'est partout comme ça, et j'ai l'impression que c'est ça l'intérêt des solidarités, comme là, je sais pas, par exemple, en termes de ressources, quand. Je sais pas, là, par exemple, moi, comme exemple de ressources, il y a des choses que c'est comme ça, c'est des stéréotypes sociaux, c'est comme ça, c'est des lois du marché ou je sais pas quoi. Donc, tu peux pas te culpabiliser de dire, je sais pas, pourquoi pas. Je trouve que c'est pas ta responsabilité si, à un moment donné, les tarifs, c'est ça. Et que c'est lié à des stéréotypes débiles, mais qui existent. Et qu'après, j'ai l'impression que s'il y a des ressources comme savoir se faire un blog, du coup, plutôt bosser par Internet et que c'est peut-être des tarifs, enfin... ou savoir, savoir bien négocier, etc. Ça peut être aussi un intérêt d'avoir un réseau et des solidarités pour se montrer des trucs comme ça et puis faire une espèce de truc de force qui permet de garder des tarifs qui soient élevés et tout ça, pour les personnes qui ne pourraient pas forcément... Enfin ouais, c'est le truc d'échanger sur ses ressources, en fait. J'ai l'impression que c'est le seul truc où c'est possible. Déjà, les autres choses, déjà, c'est voilà, c'est comme ça, c'est un peu un truc de...
Du coup, je suis super d'accord. Moi, après, c'était plus un truc de constat où finalement, nous en tant qu'individus. Non, mais après, ça revient toujours même sur mes questions de finalement qui fait le choix de quoi et de quelle arme dont tu disposes pour te situer dans une profession particulière et tout. Sauf que c'est intéressant, c'est de réfléchir en tant que Parce que tu peux pas juste, parce que tu t'es, enfin, il y a un moment t'es anticapitaliste, à un moment t'es capitaliste, j'ai l'impression, enfin, tu vois, à un moment t'es contre, par exemple, je sais pas, le capitalisme, et qu'à un moment tu vas quand même vendre ton corps parce que tu le décides et tu veux gagner de l'argent et tout. Je trouve ça quand même intéressant de savoir dans quelle mesure t'arrives le plus possible à exporter à l'intérieur de cette activité que tu vas faire, et dans lequel, je pense, ta marge de manœuvre pour la modifier, en fait, est réduite. Comment, justement, tu peux quand même influer sur cette activité que tu fais, dans laquelle tu vois que tu peux pas faire grand chose. Enfin, moi je pense juste par exemple à mon pote Lucas, qui est travailleur du sexe salon. Ben, lui, dans son annonce, il est si vous êtes chômeur ou étudiant, et que vous m'en fournissez la preuve, vous pouvez avoir des prix. Enfin, non, mais après, c'est juste après repenser peut-être la profession au travers. J'en sais rien, tu vois. Enfin, c'est...
Ouais,
j'affirme rien dans ce que je dis.
Sur le truc de réseau, moi je trouve ça important que le réseau il existe, en espérant qu'il serve à des personnes qui ont pas forcément tout ce que nous on a, qui nous permettent de demander 250 €. Créer un réseau, ça veut dire voilà, les personnes qui sont dans ce réseau là, on applique ces prix, on se soutient sur ces prix là, et tel critère ici ils n'existent plus. Même si dans le marché ils sont censés exister, pour nous ils existent plus. Enfin bon, je pense qu'il peut y avoir un truc qui se met en place comme ça qui serait vraiment cool. Même si à mon avis ça va prendre super longtemps et ça peut être un truc qu'on verra peut-être pas, ou j'en sais rien, tu vois, en tant que travailleur du sexe. Et le deuxième truc, c'est que je pense que sur ce que tu dis, enfin, moi je peux pas réussir à imaginer la chose comme ça, mais juste parce que je crois qu'on a vraiment pas du tout la même clientèle. Et que moi, les mecs que je me tape comme prostituée, je le fais parce qu'ils ont de l'argent. Si ils sont, comme ils sont eux, banquiers, assureurs, ou tout ce qu'ils sont, avec les revenus qu'ils ont et ce qu'ils font dans leur vie, et l'ambition et leur façon de voir le monde, leur façon de voir les femmes, etc., s'il a pas de fric et qu'il est comme ça dans sa tête, il oublie, quoi. Voilà. Tous les autres chômeurs, étudiants ou n'importe, s'ils sont plus sympas, il n'y a pas de problème. Mais moi, je me tape quand même la crème de la crème du beauf super riche. Quoi. Et,
c'est fait de moi de surpoids. La petite cerise sur la crème.
Non, mais moi, c'est un truc de fou, parce que moi, ma clientèle, c'est vraiment des gens qui sont chiés avec leurs femmes et qui sont en demande d'un espèce de fantasme de leur film porno et rien d'autre. Et du coup, et comme je correspond vraiment à ces critères physiques-là, pour un mec de 50 ans, ils veulent pas des filles toutes minces, un peu stylées, je sais pas quoi, non, ils veulent une fille classique, et je leur rends une fille classique avec le piercing et le tatouage, c'est déjà beaucoup. Mais tout le reste, voilà, ils veulent le corps que j'ai, et c'est ce qu'ils veulent. Et je leur vends que ça. Mais des gens qui voudraient une fille comme moi parce que j'ai ce corps-là et que je correspond à ce truc-là, ils vont se faire foutre. Enfin, je fais tellement, vraiment, vraiment la séparation avec ma vie privée. C'est vraiment énorme. Et je ressemble pas du tout à Catalina. Et Catalina ressemble pas du tout à Marie-Claire. C'est vraiment deux personnes très différentes.
Mais c'est pas forcément parce qu'ils sont des clients, parce qu'ils sont des clients, qu'ils sont trop cons, quoi. Enfin, je veux dire que moi, je sais pas comment dire. Pour moi, c'est pas une violence de payer quelqu'un, tu vois, non. Même peut-être un jour, je serai cliente. Enfin, même sans attendre d'être vieille et d'avoir besoin de ça, je ne sais pas quoi. Mais, enfin, c'est juste un acte commercial, c'est tout. Enfin, pour moi, c'est pas du tout ça qui est violent. Ça peut être violent en dehors de l'acte marchand. Ça peut être, enfin, pour moi, il y a des gros cons qui ne vont pas payer.
La violence, elle n'est pas dans le fait, dans l'échange d'argent. Et je peux même dire que depuis l'âge de 15 ans, j'ai très facilement échangé mon sexe contre quelques-uns de câlins. Quoi. Tu vois, c'est-à-dire que j'ai juste passé mon adolescence et même après à baiser pour pouvoir dormir avec quelqu'un, c'est tout. Et je ne le considère pas comme un truc violent maintenant. Et c'est, le truc violent, il n'est pas dans le fait qu'il me paye. Le truc, c'est qu'est-ce que je vends, et ça, je le vends, je l'offre pas.
Vous êtes toujours donc à l'écoute de l'émission du numéro 0 sur Radio Duo 89.5 FM. Avant de reprendre la discussion avec les deux invités, Marie et Kevin du collectif Langue de Pute, on va s'écouter un petit morceau d'Edith Piaf, n'est-ce pas ?
Marie-toi, bonsoir Marie, Marie bonsoir. Toi qui n'attends personne et un peu tout le monde, perché sur tes talons, sur tes gros talons. Marie qui vend du rêve à ceux qui ont envie d'espoir. Tu as d'ailleurs de quoi plaire à certains rêveurs. Tu es assez fardée, tu es un peu trop blonde. Et puis tu as aussi, aussi un parapluie. Marie qui pense à tout, même à vous mettre à l'abri. Marie trottoir, bonsoir Marie, Marie bonsoir. Toi qui n'attends personne et un peu tout le monde. Marie, née à Angers, à Nice ou à Saint-Dié. Marie qui vend du rêve à ceux qui ont besoin d'aimer. Bonsoir Marie trottoir, tu fais bien dans le noir. Ne parle pas, souris, vas-y, joue les jocondes. Marie qui a toujours pour tous les sans amour. Marie qui a un cœur grand comme une roue de secours. Marie trottoir, bonsoir Marie, Marie bonsoir. Marie trottoir, bonsoir Marie, Marie, bonsoir.
La roue de secours, tout ça.
Alors, donc voilà, c'était la discussion qui avait eu lieu à la Festi d'Épreuve. Moi, j'ai trouvé ça intéressant, cette discussion. Je me suis posé une question. Ça va être un peu peut-être brutal, un peu, mais je ne sais pas si vous vous souvenez, mais à une époque, il y avait beaucoup de reportages télévision où il y avait cette espèce de cliché de la vieille pute parisienne qui se fait voler un peu son marché par les prostituées venues de l'Est, entre autres. Mmh. Alors, je sais pas si vous vous souvenez ça. Mais c'est ça. Moi, j'en avais vu beaucoup, des trucs comme ça. Et alors, je sais que là, ça n'a rien à voir, mais je me suis demandé si vous vous étiez posé cette question de la concurrence, en fait. Je sais que ça a été... En fait, c'est comme ça que démarre, en fait, cette discussion. Mmh. Mais si vous êtes posé cette question, et puis si oui ou non... Bah, si oui, dans quelle mesure vous êtes posé cette question, en fait ?
Bah, on se... Sincèrement, quand on a parlé de la concurrence, c'était vachement à propos des prix, en fait. C'était sur les pratiques de prix, sur Internet, ça peut aller... Bah, moi, je vais parler du côté pute mec. Ça peut aller, il y en a qui proposent 1 heure, 60 euros, et ça va jusqu'à 300 euros de l'heure. Donc sur la concurrence, c'était vraiment là-dessus, sur les pratiques de prix, en fait. Après.
Ouais. Moi, je me suis pas, quand j'ai commencé, je me suis pas trop posé la question de la concurrence. J'avais des camarades autour de moi qui faisaient ce travail et je leur ai demandé des conseils sur comment elles pratiquaient et les prix qu'elles pratiquaient et je me suis un peu calée là-dessus en regardant sur. Internet, des personnes qui travaillaient comme moi, donc moi je travaillais sur Internet, qui avait des annonces comme moi sur Internet, j'ai regardé celles qui mettaient des prix et je me suis un peu calée, évidemment, d'un côté plus facile parce que c'était à Saint-Étienne et qu'il y a beaucoup moins de concurrence qu'à Lyon, par exemple, autant sur Internet que dans la rue, je pense d'ailleurs, mais en tout cas sur Internet, c'est vraiment sûr. Et puis d'un autre côté, parce que parce que justement, comme je le dis dans la discussion, je correspond à des critères physiques qui peuvent être beaucoup demandés, et du coup, je peux me permettre de pratiquer des tarifs plus élevés que des personnes qui ne vont pas correspondre à ces critères physiques d'âge, de couleur de peau ou je ne sais pas quoi. Voilà.
Alors, moi, j'ai découvert, par exemple, que... On va passer à un autre sujet. Je sais pas, on va partir un peu en Angleterre, par exemple. Et j'ai découvert qu'en Angleterre, il y avait un syndicat, carrément, qui avait été reconnu officiellement comme syndicat. Et il s'appelle l'IUSW, pour International Union Sex Workers, un truc comme ça. Par exemple, j'avais noté une citation plutôt intéressante de Ava Caradona, qui est activiste et elle-même prostituée et travailleuse du sexe dans ce syndicat. Et alors, je ne sais pas, on peut lire ça, non ?
Ouais.
Alors, le travail sexuel consiste à vendre du sexe ou des actes sexuels. En soi, cela n'a rien de dégradant. Il s'agit de relations sexuelles librement consenties, pas d'exploitation. Pourtant, beaucoup de lobbyistes et de législateurs ne tiennent pas compte de ce que disent les travailleuses et travailleurs du sexe et refusent de reconnaître que la majorité d'entre nous a choisi ce travail. Ils décrivent ce travail comme une violence faite aux femmes et font campagne pour abolir la prostitution et criminaliser nos clients. Ils passent sous silence la présence d'hommes parmi les travailleurs du sexe et de femmes parmi les clients. Ils braquent leurs projecteurs sur la prostitution de rue et laissent dans l'ombre les centaines de femmes, d'hommes et de transgenres qui soit vendent du sexe par téléphone ou internet, soit qui dansent dans les bars, tournent dans les films. Le syndicat international donc des travailleuses du sexe préconise la décriminalisation du travail sexuel et l'abrogation de toutes les lois relatives à la vente de services sexuels. Le syndicat réclame l'application du droit du travail pour celles et ceux qui travaillent dans l'industrie du sexe. Alors, moi, je voulais juste vous demander, qu'est-ce que ça vous évoque, cette question du droit du travail ? Est-ce que vous avez envie de vous positionner là-dessus ou pas du tout, en fait ?
Moi, personnellement, le droit du travail, pourvu qu'on me laisse tranquille, et moi, c'est à peu près là-dessus que je me définis, c'est laissez-moi faire ce que j'ai envie de faire, et voilà, quoi.
Ouais. Moi, je l'ai déjà dit tout à l'heure, comme libertaire, je me positionne évidemment de la même façon, c'est-à-dire que j'estime que je n'ai pas un droit à avoir à travailler ou un devoir d'aller travailler, même si c'est un peu ça qu'on nous impose en France et un peu partout ailleurs. Et par rapport au travail du sexe, comme féministe, bien sûr, je me positionne comme je décide de ce que je fais de mon corps, et il n'y a personne qui a à m'en protéger ou à m'en sauver de mes décisions, moi, sur mon corps. Mmh. Voilà. Et par contre, quand même, évidemment, je vais soutenir les personnes qui vont être dans cette lutte-là, quand même. Enfin, de toute façon, comme je soutiendrai des ouvrières qui vont lutter pour leur travail dans une usine, ben, je vais soutenir des putes qui vont lutter pour leur droit à travailler dans la rue ou ailleurs, quoi. Voilà. Et ah oui, moi je voudrais bien rajouter par rapport à ça, donc tu parlais de ce syndicat en Angleterre. Mmh. Et moi j'aimerais bien faire un petit une petite info pour dire qu'il existe un syndicat de pareil en Argentine qui était alors il me semble qu'il s'appelle le CTA. Je rappelle, je sais plus ce que ça veut dire exactement. En tout cas, donc c'est un syndicat d'ouvriers de gauche à la base. Et un jour, il y a des prostituées qui se sont revendiquées de ce syndicat et qui ont réussi à avoir des locaux dans ce syndicat. Ça s'est au début pas très bien passé entre les ouvriers et les travailleuses du sexe. Et petit à petit, ils ont compris qu'ils travaillaient tous dans le même sens et avec le même objectif et qu'ils avaient tous et toutes la même lutte. Et donc, finalement, maintenant, ils manifestent ensemble pour autant les droits des uns que des autres. Et je trouve ça vraiment bien. Et les personnes de ce syndicat de prostituées et travailleuses du sexe ont créé un réseau qui s'appelle Red Trasex, qui rassemble tous les collectifs, syndicats et associations de travailleurs travailleurs du sexe dans toute l'Amérique du Sud, depuis le Mexique jusqu'en Argentine. Et du coup, il y a plein de pays. Donc Red Trasex, on peut le trouver sur Internet très facilement. Ça doit être .org ou .com, je ne me rappelle pas. Et on a accès à soit les sites, soit les contacts des personnes qui travaillent comme dans ces associations-là, dans tous les pays d'Amérique du Sud. Il y a vraiment beaucoup de pays. Et en fin de compte, elles sont vraiment... Enfin, moi, je me suis rendu compte en visitant ce site et puis en parlant avec des gens de là-bas qu'elles sont vraiment super organisées et qu'il y a vraiment beaucoup de monde qui les soutient. Voilà.
Il y a aussi... moi, je sais que ce qui avait été très marquant, c'était le manifeste des travailleuses du sexe, des travailleuses du sexe de Calcutta en Inde, qui avaient à un moment dit « Bon, arrêtez de nous dire la prostitution, c'est mal ou quoi que ce soit. Maintenant, on a des problèmes concrets, on veut se rassembler et les régler. » Et c'était un manifeste vachement intéressant. Et à mon avis, vous pouvez le trouver sur Internet, traduit en français, sur infocus.net sûrement. Et sinon, vous allez participer à diverses manifestations et événements bientôt.
Oui.
Petit agenda.
Alors, les Langues de Pute organisent le 13 mars à la Lutine à Lyon une projection débat. Alors, on va projeter le film Irina Palm.
De Sam Gebarski.
Voilà, qui va être suivi d'un débat. Et c'est à quelle heure ?
18h.
C'est à 18h. À la Lutine à Lyon. Après, le 20 mars, il y a les Assises de la prostitution à Paris qui va se passer au théâtre Odéon. Donc, vous pouvez chercher sur Internet toutes les informations. Donc, il va y avoir des débats, des ateliers. Et le lendemain, il y a la Pute Pride qui est organisée par le collectif des putes. Donc, là aussi, vous pouvez chercher sur Internet. À quelle heure ça commence et d'où ça part. Et le 2 avril à Londres, il y a les universités du printemps de la prostitution internationale. Ça se passe pendant 3-4 jours. Il y a pareil, des discussions, des ateliers, des soirées. Et c'est à Londres, voilà.
Ouais. Pour les assises de la prostitution, il faut préciser qu'il faut s'inscrire.
Oui, il faut s'inscrire avant.
Ouais, voilà, donc ça doit être trouvable facilement sur Internet en tapant assises prostitution 2009. Et il faut s'inscrire, je pense qu'il faut envoyer un mail et les gens vous inscrivent. Et je pense qu'on peut aussi dire que de Lyon, peut-être en contactant Kabiria, il y a sûrement des voitures qui vont partir s'il y a des gens qui n'ont pas les moyens de monter à Paris, qui ont quand même envie d'aller là-bas. Il y a des voitures qui vont partir et peut-être qu'en contactant Kabiria, on peut savoir pour les transports, quoi.
D'accord. Vous trouverez plein d'informations sur le site www.lesputes.org. Voilà.
Ouais.
Voilà.
Ok, bah merci beaucoup. Je ne sais pas si vous avez quelque chose à ajouter.
Ah, merci.
Bon, et là, dans ce cas, l'émission est bientôt finie. Donc on va passer à l'agenda de choses intéressantes qui se passent à Saint-Étienne et ailleurs. Alors, qu'est-ce qui se passe d'intéressant ?
Eh ben, là, c'est quelle heure ? C'est bientôt 13h. Eh ben, 13h30 déjà, aujourd'hui. Il y a une manifestation qui partira de la fac de la Métard pour aller on ne sait où. Et c'est toujours une manifestation qui est un peu dans le cadre des mobilisations de l'enseignement supérieur.
Et ben comme ça, je vais en profiter pour embrayer. Donc, une grande partie de l'université Jean Monnet est toujours en grève, étudiants et enseignants. Il se passe pas mal de choses. Là, c'est les vacances, donc il se passe un peu moins de choses, mais quand même. Par exemple, vous pouvez rencontrer des gens dans une salle du comité de grève qui se trouve juste à côté du hall du site Tréfilerie. Voilà. Lundi, donc nous serons le 23 février, il y aura une nouvelle AG des étudiants à 14h. Voilà, et donc, à savoir que depuis maintenant, je pense, 10 jours, non, une semaine, je ne sais plus, l'occupation active et ouverte de la fac a été votée, c'est-à-dire faire la grève, occuper la fac et empêcher les gens qui vont en cours d'y rester. Voilà. Et donc, je vous redonne l'adresse du site qu'on vous a déjà donné où il y a toutes les infos. c'est UJM en lutte, tout attaché, -st-etienne, .over-blog.com. UJM en lutte, Saint-Etienne-over-blog.com. Voilà.
Est-ce que je me demandais s'il y avait toujours les rendez-vous bouffe, type un peu auberge espagnole, à midi, là, à la fac Tréfilerie ?
Ouais, normalement, les midis dans le hall, il faut amener à manger pour partager avec les autres.
D'accord.
Ça marche plus ou moins selon les jours.
Bah, jusqu'à ce qu'il y ait une cuisine autogérée, là. Alors, pour les personnes qui sont motivées ou qui peuvent, eh ben, cet après-midi, à 14h, place des Terreaux, il y a un départ de manif aussi. Bah, toujours dans... En fait, c'est la Coordination Nationale des Enseignants qui appelle à cette manifestation. Voilà.
Sinon, sortons un peu des facs. Je ne sais pas. On va rappeler que tous les 10, 20, 30 de chaque mois, il y a le Barazite au squat qui se trouve 14 rue François-Albert au Soleil à Saint-Étienne. Donc ça commence vers je ne sais pas quelle heure, vers l'heure de l'apéro. C'est un bar, voilà, pas très officiel. Et ce 20 février, donc vendredi, il y aura des super mix avec DJ Punk Rock Save My Life et, comment il s'appelle déjà, je ne sais plus, Shit Sound System. Expérience, voilà. C'est du punk rock, mais pas que.
Et je voudrais faire une petite pub pour notre émission de radio toutes les deux semaines sur Radio Canus 102.2 à Lyon, que vous pourrez aussi retrouver sur Internet. Et je vais donner aussi le site Internet de la Déprave, vous pouvez toutes les écouter. Donc c'est déprave.over-blog.org.
En alternance avec Lilith, Martine et les autres. Donc tous les vendredis, enfin un vendredi sur deux, voilà. À 17h sur Radio Canus toujours.
D'accord. Alors, ça me fait penser que Radio Canu fait partie du collectif Radios en lutte, qui lutte contre la venue forcée de la radio numérique terrestre. On peut d'ores et déjà plus ou moins annoncer qu'il y aura certainement et probablement une réunion publique pour parler de ça, échanger des infos et éventuellement organiser une lutte sur Saint-Étienne. Alors ça se passera, je dis certainement, probablement, on n'en est pas sûr encore, mais on a envie de le faire. Et ce sera sûrement dans le cadre du festival Avataria, qui va se dérouler au mois d'avril, début avril je crois.
Ok, ouais. Tu dévoiles des infos très officieuses là.
Mais non, mais oui, mais enfin, on a envie de le faire. Enfin, je crois qu'il y a quand même, on est pas mal à envie de le faire.
Bon, et ensuite, je sais pas si on a oublié des choses, mais le vendredi 13 mars à l'entrepôt Bellevue, on va faire une grande fête dont le but est de récolter de l'argent pour financer les émissions Numéro Zéro et Papillon et de Radio Dio et dans l'espoir aussi de donner de l'argent à Radio Audio. Et voilà, il y aura des DJ et des groupes, et ce sera bien, et on vous donnera plus d'infos plus tard.
On a déjà dit le 20 mars à la SOF, le concert.
Ah non.
Hey. Ah oui. Viscéralement déviant. Allez, hip-hop queer, quoi. Le 20 mars, si vous n'avez pas, franchement, pas possibilité de monter aux Assises de la Prostitution à Paris, vous pouvez toujours aller au squat la SOF à Saint-Étienne le 20 mars pour aller voir le concert de hip-hop queer.
Voilà, c'est toujours au 14 rue François-Albert.
Et n'oubliez pas de toute façon que tout ce qu'on vient de dire, on va essayer de le mettre sur le site du numéro 0, c'est http://. Le numéro 0, tout attaché sans accent, .l'autre.net. Voilà. Et n'hésitez pas aussi à nous filer des infos, même nous dire ce que vous pensez de cette émission, tout ça. On a une adresse mail qui est émissionradio@fastmail.net.
Très bien. Bon, ben on a fait le tour.
Merci en tout cas pour.
Merci.
Merci.
Et ben cette émission sera rediffusée à 17h aujourd'hui et on se retrouve jeudi midi dans 15 jours.
Ciao.
Au revoir.
Ciao et n'oubliez pas tout casser.